Bonjour frères et sœurs. Quelle grâce nous avons de voir comme ça des jeunes qui se lèvent et qui partent sans trop savoir ce qu'elle va faire, mais elle y va quoi. Elle part à l'aventure avec le Seigneur et moi je suis toujours émue de voir ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces anciens, peu importe l'âge, peu importe le sexe, qui osent comme ça se lever et partir. J'ai vraiment mon cœur qui est tout ému comme ça. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la Pentecôte, vu qu'on est le dimanche de Pentecôte. Qu'est-ce que ça dit pour vous, la Pentecôte? Si je vous dis la Pentecôte, à quoi ça vous fait penser? Il y a d'autres idées, non? Des idées plus spécifiques? Il a amené quoi, le Saint-Esprit? Ah, intéressant. Intéressant. Je vois que vous avez des idées intéressantes. Alors, on va faire un petit récapitulatif d'abord. Il y a 50 jours, c'était Pâques, c'était le week-end de Pâques. Donc, lors du week-end de Pâques, on vous a parlé de la crucifixion de Jésus. On vous a fait une soirée spéciale pour ça. Et puis, au troisième jour, on vous a parlé de sa résurrection, vu qu'il était ressuscité au troisième jour. Dimanche dernier, Florence nous a parlé des temps de l'ascension. Parce qu'après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, avec les femmes, avec les personnes qu'il avait accompagnées, et il les a enseignées. Et Florence nous a expliqué tout ça, donc je ne vais pas vous refaire tout le topo. Et puis, Jésus était en train de les bénir, donc de leur parler, quand il a été enlevé au ciel. Donc, il n'est pas mort une seconde fois, il a été enlevé. Et Luc 24, 51 nous dit... Pendant qu'il les bénissait, il les quitta, il fut enlevé au ciel. Ou bien, Acte nous dit, une nuée le cacha à leurs yeux. Donc comme ça, il est parti, tout en parlant, tranquillement, paisiblement. Et 10 jours après cet enlèvement, soit 50 jours après Pâques, arrive la Pentecôte. La Pentecôte qui est aussi appelée la fête de la moisson. Elle arrive précisément 50 jours après la résurrection du Christ. 50 jours après cette résurrection, les femmes, les disciples, ceux qui avaient accompagné Jésus, se retrouvent dans la même chambre haute où, juste avant sa mort, ils avaient pris la dernière Sainte Cène. Ils se retrouvent dans le même lieu. Ils sont là, en train de prier. Et c'est à cet endroit-là, précisément, que le Saint-Esprit est venu et qu'il s'est déversé sur eux. Il s'est déversé sur ce qu'on appelle les croyants de la première heure. Et on va regarder ça dans Actes 2, des versets 1 à 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Personne n'a été épargné, tout le monde a été touché. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils venaient tous du monde entier, ils parlaient tous des langues différentes. À ce bruit, ils accoururent en foule, ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?» Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue? Après, on voit Parthe, Mède, il y a des endroits, je ne sais même pas où c'est, hein, je vous le dis, Élamite, la Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, l'Asie, la province du Pont, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, Rome, des Juifs de naissance ou de conversion, des Crétois, des Arabes. Tout le monde les entendait parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Tous étaient remplis d'étonnement. Qu'ils soient juifs de naissance ou juifs par conversion, peu importe l'endroit d'où ils venaient, la région du monde d'où ils venaient, la langue qu'ils parlaient, ils entendaient les disciples, les femmes et toutes les personnes qui étaient réunies ici parler dans leur langue. Ça paraissait tellement impossible qu'ils croyaient qu'ils étaient ivres. Ils se sont dit, ils ont bu. Il était 9h du matin, alors il aurait fallu avoir bu toute la nuit. Mais ils imaginaient, mais non, le Saint-Esprit avait agi. Mais qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 50 jours pour que le Saint-Esprit déverse une telle puissance sur ses disciples? Qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est ce que nous allons voir. Dans ce livre des Actes, Luc reprend son récit exactement là où il l'avait abandonné dans son évangile. On voit dans le premier livre des Actes, on voit comment les disciples de Jésus étaient d'abord traumatisés par la mort. Après, ils ont été illuminés par sa résurrection. Et puis alors, ils ont été transformés par son ascension d'abord. Ça les a complètement remués à l'intérieur. Ils ne savaient plus où ils étaient, ils ne savaient plus qui ils étaient. Ça bougeait dans tous les sens. Mais pendant ces 50 jours, d'un commun accord, ils avaient pris l'habitude de se retrouver régulièrement et de prier ensemble. Tous ensemble. Ils priaient. Pendant 40 jours, ils ont prié en présence de Jésus. Et les 10 jours qui ont suivi, ils l'ont fait sans lui. Mais Jésus était parti en leur faisant la promesse que le Saint-Esprit allait venir. Il leur avait dit d'attendre là. Donc ils attendaient là. Pendant 10 jours, et encore plus, ils sont restés fidèles. Ils ont attendu cette promesse. C'est pendant ces 10 jours, d'ailleurs, que Pierre a proposé aux 11 de nommer un 12e apôtre. Florence nous a parlé de ça la semaine dernière, elle nous a expliqué, parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore que 11, et puis ils ont nommé le 12e. Donc, ces 10 jours se terminant, et la totalité de ces 50 jours étant finie, le jour J arrive. Alors, je ne sais pas trop comment le dire, mais ça se dit Javouot, Pentecôte. Et donc, les apôtres, les femmes, ceux qui étaient avec eux, et Luc, dans Actes 1, 13, 14, il prend soin de donner leur nom les uns après les autres. On voit qu'il dit, donc Actes 1, 13, 14. « Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. » Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, les disciples, les femmes, tous ceux qui croyaient en Jésus et attendaient l'accomplissement de la promesse étaient rassemblés là, ensemble, dans ce lieu. Ils étaient environ 120. Ça vous parle, 120 ? Ça fait un beau chiffre, hein ? Quand l'église est pleine, là, en temps normal, pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas tous là, mais en temps normal, et quand on remplit jusqu'au bout, c'est le nombre qu'on est, 120. Donc nous aussi, on pourrait être 120. Nous aussi, on pourrait vivre ce qu'ils ont vécu. Ah. On est à peu près la même quantité qu'eux. Hein. Donc ils étaient là, les 120 réunis, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que les prophètes avaient déjà annoncé, Joël en avait parlé. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait promis, l'Esprit Saint s'est répandu sur toutes les personnes présentes. Toutes ont été touchées, hommes, femmes, jeunes, vieux, grands, petits, maigres, gros, tous. Pas un n'a échappé. C'est pas le Saint-Esprit, il a ouvert la fenêtre, il a balancé le truc, et puis celui le plus grand, il allait l'attraper, ou bien le plus rapide, ou le plus éveillé. Non, non, il a déversé sur tous. Tout le monde a eu droit à un don du Saint-Esprit. Les langues de feu se sont répandues sur tout le monde, même ceux qui étaient cachés dans un coin, qui ne voulaient pas faire de bruit, qui ne voulaient pas qu'on parle d'eux, qui ne voulaient pas qu'on les voit. Il y en a parmi nous. Hein. Moi, j'ai été comme ça longtemps, assise au fond de l'église, je me cachais. Eh bien, le Saint-Esprit, il a vu tout le monde, lui. Tous ont reçu un don. Et là, quand on voit le don, le premier don, la première réaction de ces dons, on voit le contre-pied avec l'épisode de la tour de Babel dont il est parlé dans Genèse. Parce que dans Genèse, la tour de Babel, quand les hommes, pour atteindre Dieu, pour devenir plus grands, ils ont construit. Et Dieu, il en a eu marre de tout ce qu'ils faisaient comme bêtises. Donc, il leur a donné des langues différentes, il les a mélangées les langues pour plus qu'ils se comprennent. Et là, on voit que le Saint-Esprit donne le contre-pied, tchouk, il leur donne des langues différentes à tous pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils soient à nouveau réunis. À partir de là, plus rien va être pareil dans leur vie. Ils ne seront plus les mêmes hommes, ni les mêmes femmes. Ces langues de feu se répandent sur eux et ça provoque une telle explosion en eux, ça va provoquer une nouvelle dynamique dans leur vie. Et tout de suite, on voit l'apôtre Pierre, quand arrive dans Actes 2, les versets 14 à 36, la prédication de Pierre, je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est très longue, mais nous voyons là Pierre qui prêche à la foule, une énorme foule. Eux, ils sont 120, mais dehors, ils sont nombreux. Et l'apôtre Luc, quand il nous explique la prédication de Pierre, on voit bien qu'il nous montre comment le comportement de Pierre a changé. Comment, depuis les évangiles, Pierre a été transformé. Il n'est plus le même. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a été arrêté, il était tellement tremblant de peur qu'il a renié Jésus. Il l'a même renié 3 fois. Et là, il prêche à une foule immense. Il n'a plus peur. Il explique comment Jésus a été mis à mort et comment dans les derniers jours, Dieu déversera son esprit sur tous les humains. Comment vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Et il explique tout ça. Et il explique comment Dieu fera des prodiges en haut dans le ciel et des miracles sur la terre. Il n'a plus peur de rien. Et le résultat, vous le connaissez ? Résultat, acte 2, 41, nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes. Pierre le timide qui tremblait, il prêche 3000 conversions. 3000 repentances, 3000 baptêmes, 3000 personnes se convertissent ce jour-là. Vous imaginez ? C'est pas rien. Ils étaient 120, hein, le même nombre que nous. Ça interroge, hein ? En tout cas, moi, ça m'a interrogé. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Dans Actes 2, 43, 47, nous voyons que beaucoup de prodiges et de signes miraculeux se faisaient par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout mis en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu. Et le Seigneur, chaque jour, ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour encore, il en arrivait d'autres. Et encore, et encore, et encore. C'est ainsi qu'est née l'Église chrétienne. Bien-aimés, la fête de Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui, nous invite à nous souvenir de notre vocation en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de notre vocation que Dieu a mis en nous, de la vocation qui est l'histoire de notre vie, celle pour laquelle Dieu nous a appelés. Il nous a demandé d'être des témoins, d'être des témoins du Christ ressuscité. Et aujourd'hui, à Pentecôte, il nous le rappelle. La fête de Pentecôte nous rappelle que l'Église n'est pas une simple œuvre humaine, mais qu'elle est une création de Dieu. C'est lui qui, le jour de Pentecôte, par son Saint-Esprit, a touché toute la foule qui était présente, les 120 qui étaient présents et tous ceux d'après. L'Église est une création de Dieu. Et il est à l'œuvre dans l'Église et dans le monde autour de nous. Il est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous. Il est à l'œuvre dans nos vies, dans notre église ici à La Chaux-de-Fonds et dans toute la ville de La Chaux-de-Fonds. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur certaines choses qu'on a lues dans le livre des Actes et qui sont permanentes encore aujourd'hui. Parce que le témoignage est un grand défi. Alors, regarder ces choses est vraiment important. Si l'on revient au récit du livre des Actes qu'on a lu tout à l'heure, il y a trois mots qui se caractérisent particulièrement, qui caractérisent le Saint-Esprit. Dans nos vies, depuis la fête de la Pentecôte jusqu'à encore aujourd'hui et qui vont continuer jusqu'à la fin. C'est le vent, le feu et la parole ou le témoignage. On va regarder tout d'abord le vent. Acte 2, 2 nous dit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme un souffle tempétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Tempétueux, les amis, ce n'est pas une petite brise marine. Hein. Tempétueux, ça veut dire violent, ça veut dire fort. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est à l'œuvre, il n'est pas une petite brise légère. « Oh, il fait une petite brise, je vais mettre mon petit cache-épaule. » Ce n'est pas un doux vent d'été. L'Esprit Saint, quand il arrive, il est comme un ouragan. Il arrive, il souffle. Comme une tornade. Il vous bouleverse, il vous retourne, il vous couche par terre. Le souffle violent qui remplit toute la maison ce jour-là, la pièce où étaient les disciples, fait écho au tonnerre et aux éclairs qui ont eu lieu sur la montagne lorsque Dieu est apparu à Moïse et au peuple, au mont Sinaï. Vous vous rappelez cette histoire dans Exode ? Ils étaient là au pied de la montagne et Dieu, il est arrivé, ça a fait des éclairs, des tonnerres, ils étaient tous effrayés. Ils avaient l'impression que la montagne allait leur tomber dessus. Le vent de l'Esprit de Dieu n'a rien d'un souffle doux et léger. Quand il souffle, il est puissant, il peut être terrifiant. Et lorsqu'il se manifeste, les choses ne peuvent plus rester comme avant. L'Esprit de Dieu amène dans nos vies des changements radicaux. Il amène de l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'aime bien cette pensée-là. Il constitue une puissance de délivrance et de guérison qui est extraordinaire. Il est vainqueur contre toutes les forces du mal. Car c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit le dessein de Dieu dans ce monde. C'est lui qui vient, qui souffle, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous précède, c'est lui qui nous pousse. Quand on n'est pas bien, c'est lui qui vient nous cajoler, nous câliner. Et quand on a besoin d'un coup de pied aux fesses, c'est lui qui vient nous le donner. Moi, j'en ai pris quelques-uns, alors. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Le second signe que nous avons vu, c'est le feu. On le trouve dans Actes 2, 3. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Le feu dont il est ici n'est pas une petite flamme là, comme la bougie qu'on allume de temps en temps le dimanche ou qu'on allume à la maison pour parfumer. Ce n'est pas une petite flamme comme ça inoffensive. Le feu de l'esprit, lorsqu'il embrase le cœur d'un homme, d'une femme, de quelqu'un, il ne le laisse pas intact. Il le purifie de l'intérieur. Il vient, il brûle toutes les mauvaises choses, là, toutes les scories. Et hop, il embrase, il met le feu. Rappelez-vous dans le désert lorsque Moïse a vu le buisson ardent. Le buisson était en feu, mais il ne se consumait pas. parce que Dieu était à l'intérieur. À cette vision, Moïse a été rempli d'effroi. Il a enlevé ses sandales, car il a compris que le lieu était très saint. Il a compris que Dieu était dans le buisson, que Dieu, le feu, représentait Dieu. Et le psaume 50 nous dit, « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant et autour de lui une violente tempête. » Et nous, on imagine un Dieu et un Saint-Esprit tout tranquille, tout peinard. Mais ce n'est pas ça. Le feu qui a rempli Moïse d'effroi est un feu dévorant. Et c'est ce feu-là qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les 120. C'est ce feu-là qui les a revêtus de la puissance de Dieu, qui a purifié les disciples. Ils étaient tout timides, là, tout craintifs. Il les a purifiés, il les a secoués, il les a relevés, il les a envoyés. Résultat, 3000 personnes tout de suite. C'est ainsi que la flamme purifiante du Saint-Esprit fait et veut faire de nous des êtres nouveaux, des êtres appelés à la sainteté pour pouvoir le servir. Je ne dis pas qu'on est des êtres parfaits, je dis des êtres appelés à la sainteté. À chaque jour, le devenir un petit peu plus pour nous rapprocher toujours plus du Christ. La troisième manifestation, le troisième signe de la présence de l'Esprit, c'est la parole ou le témoignage. On le trouve dans Actes 2, 4. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le point important, c'est que le don que l'Esprit a donné a été immédiatement suivi par le témoignage des apôtres et la proclamation publique de l'Évangile. Ils n'ont pas gardé ça pour eux. Tout de suite, ils ont ouvert les portes et ils sont allés prêcher. Ils ne parlaient pas en langue des anges ou de l'esprit, comme on a tendance à le penser ou à le dire ou à le comprendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce don, hein, mais à cet endroit-là précis, ils ne parlaient pas la langue des anges. Ils n'avaient pas le parler en langue tel que nous le pensons. Ils parlaient des langues connues des autres. Ils avaient en quelque sorte le don des langues afin de pouvoir communiquer avec les autres. On l'a vu, les Juifs pieux qui venaient de toutes les nations, qui avaient tous des langues différentes, chacun entendait quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes parler dans sa langue à lui. Le but était qu'ils puissent communiquer avec les autres, pas qu'ils communiquent eux tout seuls ou eux avec Dieu. Le but à ce moment-là était qu'ils puissent communiquer avec les autres. D'ailleurs, le verset 11 nous dit « Ils parlaient dans leur langue des merveilles de Dieu ». Les disciples, les femmes, ceux qui les accompagnaient, qui durant 50 jours, qui avaient séparé la Pâque de la Pentecôte, s'étaient retranchés dans le secret de la chambre haute, à l'abri des moqueries, des persécutions. On l'a vu l'autre jour, Florence nous l'a expliqué, ils avaient fermé les portes à clé, verrouillé les volets. Ils étaient enfermés depuis 50 jours, ils avaient peur, ils tremblaient, et là, tout à coup, ils se mettent à parler à haute voix, dans des langues qu'ils ne connaissaient même pas. C'est magnifique. Moi, je n'ai pas le don de parler en langue. J'ai essayé d'apprendre l'hébreu, le grec. Heureusement, j'ai fait que les bases, parce que mes profs, ils s'arrachaient les cheveux. J'ai essayé le russe, je ne connais que quelques mots. Je ne suis pas douée, alors c'est le genre de truc, ça me fait rêver de pouvoir parler avec les autres comme ça, sans connaître la langue. Me dire, ah ben tiens, je vais arriver dans un pays et je vais pouvoir communiquer avec eux sans avoir appris. La puissance du Saint-Esprit, c'était ça. Ce jour-là, ils ont pu communiquer, parler, ils ont pu témoigner de la présence du Saint-Esprit. Ils ont pu témoigner des merveilles de Dieu. La présence du Saint-Esprit a pour résultat premier l'annonce de la bonne nouvelle. La proclamation de l'Évangile à tous les habitants de la terre. Tous. Et cela nous est préfiguré, nous est montré par ces 3000 personnes qui se sont converties ce jour-là à la Pentecôte. Pour nous encourager, Dieu a permis que ça se passe et que ça ait lieu pour qu'on voie que même nous, on peut le faire. On est combien là? Je ne sais pas. Hein. 80 aujourd'hui. Eh bien, 80 là qu'on est, même si on est 84, peu importe, on peut recevoir ça et le vivre. Car depuis ce jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une mission qu'on trouve dans Matthieu 28, qui est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. » C'est notre mission, bien-aimés. Avant tout le reste, c'est notre mission. La Pentecôte est donc le point de départ de l'évangélisation du monde. Elle est le point de départ de la conquête du monde par le Christ. Et cette évangélisation, nous l'avons vu, elle va bien au-delà des frontières, bien au-delà des frontières géographiques, bien au-delà des frontières de la langue, bien au-delà de nos propres limites, parce qu'on est capable en tant qu'être humain de s'en mettre des limites. On est capable de s'en mettre, mais tout ça va bien au-delà de nos frontières. On a vu Johanna tout à l'heure, elle ne connaît pas toutes les réponses. Et elle part. Car ce qui fait notre force, ce qui fait la force inébranlable du peuple de Dieu, c'est notre enracinement dans le Christ Jésus. C'est notre soumission à la parole, à la Bible. C'est notre soumission au témoignage des prophètes, des apôtres, le fait de croire ce qu'ils ont dit, même si on ne l'a pas vu. C'est notre dépendance absolue vis-à-vis de Dieu et de l'Esprit Saint. C'est ça qui va faire la différence. Et ce qui fait aussi la différence, ce qui a permis que les femmes, les disciples et tous ceux qui les accompagnaient, les 120 ensemble, ont pu vivre tout ceci le jour de la Pentecôte. Vous savez ce que c'est? S'ils ont pu sentir le vent impétueux de l'Esprit de Dieu, s'ils ont pu être transformés par son feu dévorant, s'ils ont pu ouvrir leur bouche pour parler des langues étrangères à des gens qu'ils ne connaissaient même pas, s'ils ont pu voir la conversion de 3000 personnes le jour même, puis la conversion de tous ceux que le Seigneur a rajoutés encore après. C'est parce que durant les 50 jours qui ont séparé Pâques de la Pentecôte, ils se sont tenus tous ensemble, dans l'unité, dans l'unanimité, dans la prière, dans le partage du pain, tous ensemble, unis, réunis dans cette même attente, que la promesse se réalise. Tous ensemble. C'est d'ailleurs pour cela qu'au verset 13 et 14 du chapitre 1 des Actes, Luc mentionne les noms des personnes présentes. Il mentionne les disciples, les femmes, il nomme leurs noms. Parce qu'il veut montrer là l'unité présente qui constituait le noyau de cette première église naissante. Ce noyau constitué d'hommes et de femmes qui étaient présents ensemble pour obéir à Jésus. Et à la parole, il avait dit « Attendez ici ». Ils attendaient. Ils obéissaient, tous ensemble. Unis. Ils n'ont pas dit « moi je ne suis pas assez beau, moi je ne suis pas assez grand, moi je ne suis pas assez bien, moi je n'ai pas le temps, moi je suis une femme, moi j'ai le droit d'y aller parce que je suis un homme ». Ils n'ont pas dit tout ça. Ils étaient unis et réunis ensemble pour attendre la promesse, comme nous le sommes aujourd'hui, réunis et unis. Ensemble. et comme nous pouvons l'être chaque jour davantage encore. Toujours plus. Alors, la question que je me pose et que je me pose aussi à moi-même, c'est en tant que chrétien et en tant qu'Église, où en sommes-nous aujourd'hui, à ce jour de Pentecôte 2019 ? Sommes-nous prêts, nous aussi, à nous laisser interpeller et bouleverser par les paroles de Jésus et par le Saint-Esprit ? Sommes-nous prêts, nous aussi, à laisser le Saint-Esprit rentrer, arriver, déverser les langues de feu et nous bouleverser, nous retourner, nous coucher par terre ? Sommes-nous prêts à laisser son vent nous secouer ? À laisser son feu brûler au fond de nous tout ce qui craint ? À laisser ses paroles remplir notre bouche ? Nous sommes à la fin des temps. Nous approchons de ces temps où des foules entières vont chercher le Christ. La Bible, elle le dit, elle l'annonce. Hein. Sommes-nous prêts à nous mettre à l'écoute de notre Sauveur et du Saint-Esprit ? Sommes-nous prêts à nous préparer ensemble, à nous unir, à nous réunir pour ces foules qui vont arriver ? Sommes-nous prêts à lâcher certaines choses de nos vies ? Pour nous préparer à ces foules. Au mois d'octobre, nous allons vivre une dizaine de jours un peu particuliers. Nous allons vivre 10 jours d'évangélisation avec l'association The Turning. C'est une association qui existe depuis pas très longtemps, quelques années, qui est vraiment conduite par le Saint-Esprit. Et partout où ils passent, ils voient des miracles de guérison, des miracles de conversion et des personnes. Même là, ils ont été à Lille dernièrement, Lille en France, là-bas, où c'est difficile de parler de Dieu, c'est difficile de parler de conversion, de guérison et tout ça. Ils ont eu quelques jours, 300 conversions. Où The Turning a commencé dans une petite église un peu comme la nôtre, où il se passait des petites choses, de temps en temps, comme ça, quelques conversions, quelques guérisons, mais rien d'extraordinaire, enfin, pas des foules en masse. Et ça faisait 20 ans que le pasteur priait pour qu'il se passe quelque chose. Ils avaient fait des campagnes d'évangélisation chez eux, ailleurs, à côté, de l'autre côté. Ils avaient tout essayé. Depuis 20 ans, il ne se passait rien. Et puis un jour, ils ont décidé de se préparer. Ils ont décidé de se préparer et de s'unir et de se réunir dans la prière et de se préparer à la promesse que Jésus avait faite, que le Saint-Esprit allait venir et que les foules allaient se convertir et que l'Église allait bouger. Ils se sont préparés, le Saint-Esprit a honoré. En 4 semaines, ils ont eu 1800 conversions. D'une centaine qu'ils étaient, ils ont eu 1800 conversions. Vous imaginez ? Donc, ils vont être sur le coin. On est en train d'organiser ça avec eux. Et au mois d'octobre, on va avoir, du 12 au 19, on va avoir 10 jours d'évangélisation. 10 jours où on va se tenir ici, à certains moments, pour prier ensemble, pour être enseignés, pour vivre le cœur du Père et pouvoir aller le porter dans la rue. On sortira 2 fois par jour, matin et soir, 1 heure à chaque fois. Et le reste du temps, on priera. Chaque soir, on aura ce qu'on appelle une soirée immersion, une soirée vraiment dans le cœur du Père. C'est vraiment des campagnes d'évangélisation particulières. On ne sort pas avec la Bible pour aller taper sur la tête des gens. On va à la rencontre des gens, on va les écouter, on va écouter leurs questions qu'ils ont sur Dieu, on va leur partager l'amour de Dieu, on va leur partager ce qu'on a, ce qu'on vit. Mais pour le partager, il faut le vivre. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés ? Est-ce que nous sommes prêts à laisser l'onction et l'action du Saint-Esprit souffler dans nos vies ? Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à sa disposition et à le laisser vivre en nous ? et nous bousculer et nous déplacer et nous envoyer sur le chemin. Avec The Turning, ils ont vu même des personnes dans la Bible, des hyper timides dans les églises, des gens assis tout au fond, ce tout discret. Ils les ont vus se lever et aller parler dans la rue. Le but, c'est vraiment aller, parler, partager et faire des disciples. On est appelé à faire des disciples. Cette campagne va nous apprendre et nous introduire sur ce chemin. Sommes-nous prêts? Moi, j'espère que nous le sommes. Et si nous ne le sommes pas tout à fait, eh bien, j'espère que dans ces temps qui nous séparent de maintenant, la Pentecôte 2019, jusqu'à octobre 2019, eh bien, on va se préparer. Chacun, les uns les autres, on va regarder à qu'est-ce qui peut être modifié, qu'est-ce qui peut être changé dans nos vies, où est-ce que le Saint-Esprit peut encore nous toucher, où est-ce que le Saint-Esprit peut encore agir. Que chacun, les uns les autres, on va faire cette introspection et demander au Saint-Esprit de nous toucher pour qu'ensemble on construise notre Église. Pour que tous ensemble on puisse se lever. Parce que l'Église, bien aimée, c'est un corps, c'est une tête, c'est des bras, c'est des jambes, c'est nous tous ensemble. Alors j'espère que nous allons le faire et prendre la décision de le faire. Afin que Dieu puisse nous communiquer tout ce qu'il veut nous communiquer. Afin que le Saint-Esprit puisse faire souffler sur nous son vent puissant, son feu purifiant et son zèle pour le témoignage. Afin que la Seigneurie du Christ soit reconnue par nous d'abord et par tous ceux qui nous entourent. Que sa Seigneurie soit reconnue jusqu'à ce qu'il revienne, parce qu'il revient bientôt. Et ça aussi, nous devons nous y préparer. Alors, aujourd'hui, que nous sommes là réunis, je vous invite à ce que tous ensemble, nous nous unissions pour prier et que nous demandions au Saint-Esprit de nous remplir plus que jamais. Je vous y invite. Amen.